Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
Et à 18h16, l'escale reportage d'un jour dans le monde nous emmène ce soir en Afghanistan. Je vais vous apprendre à jouer au bouskashi. Si vous avez lu Kessel, vous savez à quoi ressemble ce jeu équestre vieux de plusieurs siècles et vous verrez que c'est aussi impressionnant à voir qu'à entendre. Ce soir, la bande d'un jour dans le monde vous fait partager ses coups de cœur, les livres, les films, les séries télé que vous pouvez encore rattraper et ce qu'il faut savoir pour l'année à venir. Mais avant, je vous emmène sur le lac Baïkal, sur une moto Oural à panier adjacent. Bref, nous allons piloter sur la glace avec un sidecar étonnant, mais pas seulement. Sylvain Tesson passe une partie de la soirée avec nous. Le monde est vaste et joyeux Noël.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Pourquoi avions-nous pris la route? Nous étions de gentils garçons, bien élevés avant cela. Nous avions fait du latin, pris des leçons de piano. Rien ne nous prédisposait à enfourcher des motocyclettes, la main droite sur la poignée des gaz. Certes, on avait entendu dans notre enfance qu'il fallait empoigner son destin quand on est sensible à ce genre d'injonction. Il n'y a pas 36 choix. Soit on saisit une charrue, soit un fusil de soldat. Et nous pensâmes au guidon des motocyclettes. Bonsoir Sylvain Tesson.
Bonsoir.
C'est le tout début, l'entame, j'allais dire, de votre livre qui s'appelle « En avant, calme et fou, esthétique de la bécane », magnifique bouquin de photos, on y reviendra aux photos d'ailleurs qui sont signées Thomas Guasque, une épopée de 25 ans de bécane, et on vous retrouve, Edmoton, on vous retrouve tel qu'on vous connaît, c'est-à-dire dans des endroits impossibles, sur des chemins de traverse, on sait pas très bien vers où, mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance, on a bien compris que le tout c'était d'avancer. Je vous ai entendu dire, Sylvain Tesson, que vous voyagez pour fuir, moi j'ai l'impression que c'est plus que ça, en vous lisant et en vous regardant. Vous aviez besoin d'une épopée, en fait, puisque vous ne pouvez pas être un grand pirate, puisque vous ne pouvez pas être Robin des Bois, vous enfourchez une moto.
Oui, on a tous besoin de ces mythes. Moi qui ai eu l'impression assez vite, premièrement, de ne pas pouvoir changer le monde, et deuxièmement, de ne pas pouvoir véritablement rejoindre des escadrons de légende, je me suis dit que j'allais mettre en scène, par l'aventure et le voyage, et le mouvement, mes propres odyssées.
Mettre en scène, mais en même temps, rien n'est inventé, parce que c'est votre vie aussi, et même tout ce que vous racontez, ça vous est arrivé, donc à la fois, c'est pas réellement une mise en scène.
Non, mais c'est pas non plus du tout une odyssée, parce qu'il faut quand même, toutes choses sont proportionnées, il faut remettre les choses à leur juste mesure, ce ne sont finalement que des dégagements, des sortes d'issues de secours. C'est pour ça que j'appelle ça la fuite, d'ailleurs j'ai strictement aucun complexe, ni aucun scrupule à dire que ce que je cherche, c'est à fuir un certain engrisaillement de la vie, et d'aller chercher... L'aventure, c'est-à-dire une impression de liberté.
La vie est une chose tellement hideuse que le seul moyen de la supporter, c'est de l'éviter. C'est Flaubert qui dit ça et vous le citez dans votre livre. C'est aussi hideux que ça, parce que ce n'est pas l'image que vous renvoyez non plus. Est-ce que vous vous ennuyez tellement dès que vous êtes ici, en fait, Sylvain Tesson?
C'est-à-dire que je ne vais pas me faire l'exégète de la correspondance de Flaubert, mais dans cette idée de la vie hideuse, c'est la vie profane, la vie exclue de toute possibilité de rêver. La vie qui est ramenée à sa pure dimension comptable, statistique et matérielle, qui peut sembler hideuse. Alors quand on trouve le moyen de s'enfuir pour aller essayer de trouver quelques raisons de rêver, dans les steppes de Mongolie ou sur les lacs gelés de Russie, alors à ce moment-là, elle devient belle.
Alors effectivement, l'épopée nous emmène dans ces endroits que vous citez, puis au Népal, au Bhoutan, beaucoup de Russie, effectivement, du Cambodge, de l'Ouzbékistan, toujours sur des motos aussi brinque-ballantes que possible. Si elles ne sont pas brinque-ballantes, c'est pas marrant, c'est ça l'idée?
Oui,
si à un moment, elles ne vont pas casser, c'est moins drôle.
Oui, et puis nous cherchons avec mon camarade Guasque à correspondre, si vous voulez, au matériel du pays que l'on est en train de visiter. C'est-à-dire que quand on est dans le subcontinent indien, on voyage avec des vieilles Royal Enfield.
Mais vieilles, tout est dans vieilles, en fait.
C'est aussi parce que finalement, vous savez que quand une moto est d'occasion, on s'aperçoit que finalement elle marche mieux, elle est plus facilement accessible à la réparation. Rien ne se détériore aussi vite que ce qui est neuf. Rien n'est aussi fragile que ce qui est flambant, et rien n'est aussi obsolète et ne se démode aussi vite que ce qui prétend être une innovation. On s'est assez vite rendu compte de ça en termes de mécanique, et c'est pour ça qu'on recourt plutôt aux Ourals quand on est en Russie qu'à l'importation des bécanes japonaises flambant neuves.
Ourals à panier adjacent, ce qui est quand même magnifique pour dire sidecar. Ourals à panier adjacent, c'est quand même beaucoup mieux.
Il me semble que parfois l'exhumation de vieilles expressions désuètes est un voyage en soi.
Ben justement, d'ailleurs, on a l'impression que vous aimez les sidecars quand je vous lis et que je vous regarde, parce que ça permet de voyager à plus nombreux tout en restant dans sa tête. Et finalement, la moto, c'est comme la marche. C'est à la fois quelque chose de collectif, parce qu'on peut marcher à plusieurs, mais quand on roule ou quand on marche, on est tout seul dans sa tête.
Oui, c'est vrai. Et puis le sidecar, l'autre explication, c'est que c'est pas commode. Et quand les choses sont pas commodes, ça appelle l'aventure. Le sidecar, c'est la combinaison des inconvénients de la voiture avec les désavantages de la moto. Alors, vous trouvez jamais très bien, mais en même temps, vous pouvez avoir dans votre panier un camarade, quelques caisses de vodka, beaucoup de livres. Et du coup, ça vous prémunit de toute forme d'ennui.
On va venir à ce que vous lisez. Je voudrais revenir un instant, parce que vous l'avez dit, au lac gelé. Vous adorez les lacs gelés. C'est quoi cette fascination pour les lacs gelés?
Je crois qu'il y a quelque chose d'esthétique, d'abord. C'est superbe. C'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu dans le monde. Ces espèces de grandes surfaces de mercure et de porcelaine, à la fois noires et puis diffractées de vénures blanches. Je trouve ça très beau. Et puis, symboliquement, je crois qu'il y a une symbolique du lac gelé. On roule sur quelque chose qui est éphémère, c'est la glace. Vaut mieux pas être là en avril quand ça fond. Il y a 1000 mètres de profondeur sous les roues. Les rives défilent pendant que vous êtes en train de circuler dans une sorte de glissade, parce que c'est un pilotage qui est assez acrobatique. Quand vous freinez, vous continuez d'avancer par définition, puisque vous êtes sur la glace vive. Et donc tout ça procure l'impression de rouler dans un rêve. J'ai jamais retrouvé ça ailleurs que sur les lacs gelés, c'est-à-dire le Baïkal, et dans le nord de la Mongolie, le lac Rovzgol.
Et l'idée, Sylvain Tesson, c'est aussi que ça peut péter, non? C'est ça aussi qui vous fascine, parce qu'à n'importe quel moment, et vous le verrez pas venir, c'est même pas comme passer par-dessus une falaise finalement, c'est encore pire.
Vous savez, l'Institut Géographique National en France a une expression pour désigner les petits sentiers qui sont pas très parcourus. Ils appellent ça chemin à la praticabilité aléatoire.
Oui.
J'adore cette expression, je trouve que ça pourrait ressembler un peu à nos existences, et ça ressemble en tout cas à la circulation sur les lacs gelés. Il y a des failles, il y a des fractures, on les voit pas, et quand on les a vues un peu trop tard et qu'on appuie sur les freins, on continue à aller droit vers l'obstacle. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'imprévisibilité.
Il y a beaucoup de paysages, évidemment, que vous nous décrivez, mais il y a des gens aussi. Mais au final, quand même, je me suis demandé, en refermant ce livre, si vous vous souveniez pas plus des paysages que des gens que vous croisez.
Peut-être. J'ai un immense goût pour les paysages, pour cette architecture-là. Les gens dont je me souviens sont quelques-uns. Je me souviens de quelques visages, je me souviens de quelques rencontres inoubliable, mais je dois dire que finalement, je m'en souviens à même proportion. C'est-à-dire que parfois, je pense qu'on peut tomber amoureux d'un lieu, on peut avoir les mêmes élans de passion pour un endroit que pour une personne. Alors, ça semble peut-être une anthropomorphisation des lieux, mais je crois profondément à ça. Et puis après tout, mieux vaut tomber amoureux d'un lieu, parce qu'il d'abord il s'en va moins vite, alors sinon c'est un glissement de terrain. Il vieillit moins vite, il vieillit à échelle géologique. Et du coup, ça prémunit du chagrin.
Mais justement, le lieu s'en va pas, en fait. Quand je vous vois sur la route Napoléon, par exemple, la route de Napoléon, celle de la conquête de Russie, quand je vous vois même sur les routes de Mongolie, pardon, on a l'impression que vous aimez les choses qui sont restées figées dans le temps, en fait. Et c'est finalement le cas aussi de l'Oural russe ou de la Royal Enfield indienne. Vous aimez ce qui est resté dans une permanence.
J'aime ce qui se maintient. Ça me vient peut-être de mes études de géographie où j'ai étudié la géologie et la géomorphologie, c'est-à-dire les formes de structure du relief. C'est vrai que là, on est dans le temps long. C'est pas tellement que je n'aime pas ce qui change, mais j'aime pas peut-être ce qui change trop vite. Je suis pas équipé de sens, d'observation qui me permettent de saisir les grands effondrements. Je préfère vivre, traverser par exemple un paysage qui demeure plutôt qu'une pente qui s'éboule.
Vous écrivez, mais est-ce que finalement ce qu'on écrit dans le voyage est vraiment ce qu'on utilise après? Est-ce qu'on replonge dans les carnets ou pas, en fait? Ou est-ce que c'est juste l'instant, les carnets?
Non, c'est pas l'instant, c'est le supplétif de la mémoire. La mémoire désagrège toute forme de souvenir, contrairement à ce qu'on nous fait croire. La mémoire est là pour oublier, pas pour retenir. Et si je n'avais pas mes carnets dans lesquels je consignais le récit de mes activités, je n'aurais pas le matériau pour écrire. Moi, je ne suis pas un écrivain d'imagination. Je n'invente pas les destins de personnages inexistants. Je ne fais que raconter ce que j'ai éprouvé. D'abord, je vis, après je raconte. Je prolonge l'aventure par l'écriture. Donc, il me faut bien un supplétif à l'oubli. Et c'est mes carnets.
Alors, il y a quelques bouquins que vous emmenez aussi avec vous. Pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place hein, dans les sacoches d'une moto. Vous en citez quelques-uns ici. Il y a du Bernanos, La France contre les robots. Il y a Les Sept Piliers de la Sagesse. Il y a aussi Le Petit Traité du Zen et de l'Entretien des Motocyclettes, ce qui est bien utile. Est-ce qu'on voyage ton sur ton, des fois? C'est-à-dire, est-ce qu'on emporte Jules Verne en Russie? Est-ce qu'on emporte Bruce Chatwin en Patagonie?
J'imagine que ça doit être agréable de le faire, mais moi, c'est pas ma technique. Pour une raison simple, c'est que j'aurais l'impression de paraphraser. les lieux que je suis en train de découvrir. Je préfère lire la littérature russe quand je suis sous des tropiques africains.
De
même, oui, de même que je préfère lire, je sais pas moi, un auteur danois quand je suis à Venise. Ça m'amuse beaucoup plus de faire un autre voyage par le truchement de la lecture plutôt que de lire une description de ce que je suis en train de vivre. C'est une redondance.
Sur une des photos, tant sur tant, sur une des photos, on vous voit lire Le condamné à mort de Jean Genet. Ouf.
Oui, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. Enfin, il y a des mots superbes. Et ça fait partie de ce principe. Demandez aux phrases, demandez aux textes de vous emporter et non pas uniquement de décrire ce que vous êtes vous-même en train d'observer.
Sylvain Tesson, le pire obstacle, c'est le retour. Qu'est-ce qui vous fait revenir? Est-ce que vous savez revenir?
Pas vraiment. Moi, d'abord, mes retours sont des escales. Mmh. Je ne fais que traverser un quai de train pour remonter dans un autre wagon. Ce qui me fait revenir, c'est la certitude que je combattrai l'éventuelle nostalgie du voyage que je viens de terminer l'écriture. Mmh. Parce que je vais transformer mes sensations en notation, ce que j'ai vécu en écriture, et à ce moment-là, le voyage va continuer. C'est pour ça que j'arrive à revenir.
Est-ce que vous savez déjà où est le prochain voyage ?
Oui, j'ai une vague idée. Je pars faire une navigation dans la mer Méditerranée sur un bateau à voile norvégien en bois du début du XXe siècle. Je vais circuler dans les îles de l'Odyssée, d'Ulysse.
Voilà, vous voyez la permanence des choses et ce très vieux bateau. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de retourner là où vous êtes déjà allé ? Ou est-ce qu'il ne faut jamais retourner où on est déjà allé ?
Je suis beaucoup retourné au bord du lac Baïkal, en Sibérie, en Russie. C'est un peu le pays où je suis revenu avec une forme d'obsession, ça m'est arrivé.
Voilà, dans les Ourals, à Panier comment déjà ?
Adjacent.
Panier adjacent, formidable. Et on n'a pas fini avec vous, Sylvain Tesson, surtout ne bougez pas. On vous retrouve dans 3 minutes dans Un jour dans le monde avec vos choix d'actualité de l'année, ce qui vous a intrigué, énervé, émerveillé, le voyage n'est pas fini. The Roots et Connie Chestnut, The Seed. You just drive your cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't Chestnut sur France Inter. On est toujours avec Sylvain Tesson dans Un jour dans le monde, en avant, calme fou, une esthétique de la bécane parue chez Albin Michel avec des photos magnifiques de Thomas Guas que Sylvain Tesson vous a demandé de venir avec dans vos sacoches, dans vos paniers adjacents, donc les événements de l'année qui vous ont marqué, ce qui vous a fait réagir et votre premier choix, c'est celui-ci.
En 40 ans, la moitié des vertébrés a disparu de la surface de la Terre à cause de l'être humain. Le dauphin de Chine n'existe plus. Il ne reste que 3890 tigres en liberté dans le monde. Plus de 1000 rhinocéros blancs sont tués chaque année. Le constat est alarmant.
Voilà, constat alarmant dont on a beaucoup parlé. Un extrait du rapport de WWF de l'année dernière, Planète vivante, la fameuse sixième extinction. L'état de la biodiversité et des espèces qui disparaissent. Ça, c'est la vie, c'est normal, mais certaines tellement plus vite et tellement de manière tellement dommage, en fait, parce que c'est de notre faute.
Oui, d'autant que je suis pas absolument certain que ce soit normal. C'est-à-dire, ce qui n'est pas normal, c'est que le déséquilibre connaisse une telle accélération, qu'il soit opéré par une espèce dominante, qui est nous autres les humains, qui avons pris le contrôle de la planète depuis une date assez récente, et qui avons orchestré cette extraordinaire disparition. Enfin, les chiffres sont au-delà de l'alarmisme. C'est une vaste catastrophe. Or, on peut tout à fait considérer que c'est un épiphénomène tout à fait anecdotique et qu'on traite avec une indifférence. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mm-hmm. On peut tout à fait se dire ça. Mais on peut aussi se dire que toute rencontre avec un animal est une jouvence et que finalement, l'intérêt de faire ce court séjour absurde, ce court intervalle de temps qui s'appelle la vie sur la planète, et de vivre dans un échafaudage d'équilibre extraordinaire écologique, d'harmonie, cette marqueterie insensée, et que nous sommes en train de ravager. Alors, ce rapport, moi, m'a à la fois tout à fait désespéré, et puis j'ai été fasciné par la manière dont il a été assez vite évacué.
Oui. Passons donc à autre chose, en gros, dans la manière dont il a été traité, comme beaucoup de choses. Et en parlant de passer à autre chose, justement, j'allais dire c'est encore plus tragique, non ? C'est tout autant tragique. Voici l'autre instant d'actualité qui vous a marqué.
Ils nous ont enfermés à l'intérieur. À ce moment, je portais encore mon bébé de 28 jours dans les bras. Ils me l'ont arraché des mains, ils l'ont jeté violemment contre le mur. Puis ils ont commencé à nous violer. Ensuite, ils ont coupé la gorge des autres femmes. Moi, ils m'ont violemment tapé derrière la tête. Je suis tombée inconsciente. Je me suis réveillée longtemps après, la maison était en feu, c'est alors que j'ai réussi à m'échapper.
Voilà, c'est un extrait d'un reportage qui a été diffusé chez nous dans Un jour dans le monde, dans les camps du Bangladesh avec les Rohingyas. Ce que vous vouliez mettre en avant, c'est les deux exodes, en fait. Les Rohingyas d'un côté, dont on a parlé très récemment, les Yézidis aussi, qui eux fuient la Syrie. Où vous voyez le lien entre les deux et surtout peut-être la différence de traitement entre les deux ?
Non, le lien, il me semble évident. Nous avions espérer dans notre immense naïveté que depuis les conflits yougoslaves et les génocides rwandais, une espèce de page se serait peut-être tournée, que nous n'assisterions plus à ces immenses détresses de déplacement de population. Et puis nous nous apercevons que l'histoire revient avec sa dimension de violence et de tragédie. Il y a l'événement et puis il y a son traitement. Et je trouverais ça tout à fait... Je trouverais que c'est une insulte rajoutée à l'injure des temps que d'imaginer qu'il doit y avoir une sorte de hiérarchie de la compassion.
Et vous pensez que peut-être malgré nous, j'en sais rien, on l'a fait, cette hiérarchie de la compassion ?
Je ne sais pas si nous la faisons, mais je crois pouvoir dire sans aucune arrière-pensée, d'ailleurs, ni politique, ni idéologique, ni d'opinion, penser qu'il y a un certain nombre de populations, de catégories de populations dans des zones du monde, dont le sort, qui n'est pas moins dramatique que celui des Rohingyas, a été finalement considéré avec plus d'indifférence. Je pense aux chrétiens d'Orient, voilà, par exemple, qui vivent une évacuation quasiment hydraulique de la présence bimillénaire des chrétiens d'Orient dans les zones du Proche-Orient et du Moyen-Orient, qui laisse penser que d'ailleurs ils seront totalement absents de la zone dans quelques décennies, et qui semble faire davantage l'objet d'une indifférence que d'une indignation. Alors là, je voudrais pas, moi, enfin ça me terrifierait que la société du spectacle intègre le concept de la compassion en émettant une forme d'échelle de valeur entre des victimes qui
et
devraient...
Et puis on entend musulmans d'un côté, chrétiens de l'autre, enfin...
Par exemple, mais c'est pas tellement l'objet, c'est-à-dire que ça serait pas tellement pour essayer d'appuyer, de faire de la détresse le pivot d'une expression de conviction politique, c'est simplement un état de fait, c'est-à-dire que pourquoi ne pas considérer que quand un cœur s'ouvre, ça s'appelle la générosité ou la compassion, ça doit être un élan qui n'a pas d'objet. C'est-à-dire que la générosité ne peut avoir de valeur et de vertu que lorsqu'elle est totalement débarrassée d'un souci d'objectif et de cible dans son adresse.
Allez, ça ne m'étonne pas de vous, votre homme de l'année, c'est lui, vous allez nous le présenter juste après.
It's easy to get frustrated because you'll feel totally fine and then your foot will just unexpectedly pop off.
The pitch of the day was 15, which is the second hardest pitch on the wall. Tommy totally crushed it.
Allez, il raconte une escalade absolument incroyable. Comment il s'appelle ?
Alex Honnold.
Voilà, l'escalade dont il parle, la falaise, j'ai presque envie de dire la façade, parce que c'est tellement droit, tellement vertical, s'appelle El Capitan.
Oui.
C'est dans le Yosemite Park. Quelle hauteur ?
1000 mètres. Un kilomètre d'escalade, c'est plus que droit, c'est parfois déversant. Ce sont des niveaux d'escalade extrêmement difficiles.
Main nue totale, solo intégral.
Solo intégral, c'est-à-dire pas de corde pour s'assurer. Et certains alpinistes ont considéré qu'il s'agissait là d'une prouesse, d'un exploit qui était inégalé dans toute l'histoire de l'alpinisme. Certains ont même dit que c'était un acte à dimension artistique, enfin mythologique, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer ça au premier pas de Buzz Aldrin ou d'Armstrong sur la Lune. Il y a quelque chose de, enfin, qui dépasse tellement, qui repousse tellement les limites des capacités humaines, que nous sommes là dans, pas uniquement dans le domaine du sport. Il y a quelque chose d'artistique, d'esthétique, de mythographique, de symbolique.
Et en même temps, alors bien sûr que c'est extrêmement dangereux, mais il est très jeune, hein, il a 31 ans je crois ce garçon,
oui.
Extrêmement méticuleux, il nous raconte, il faut vraiment que les gens qui nous écoutent aillent voir sur ces vidéos-là, il nous raconte qu'il enlève l'herbe quand il fait du repérage, qu'il sait exactement où il va poser les mains, enfin tout ça est presque mathématique aussi, ça n'a rien à voir avec un jeune gars qui a décidé de tromper la mort.
Oui, c'est ni un trompe la mort, ni l'espèce de super Rambo musclor, quand vous le voyez...
Il ressemble à rien, pauvrette.
Oui, vous avez presque l'impression que c'est un gendre idéal, comme ça, un aimable post-adolescent. Comme ça, un peu acrobatique, qui fait du cirque, mais il ne paraît pas du tout avoir repoussé les limites de la possibilité humaine. Et ça ramène à une chose, d'ailleurs, en termes symboliques dans l'histoire de l'alpinisme, c'est qu'en 1492, au moment où Christophe Colomb découvre l'Amérique, il y a eu la première ascension d'un sommet gratuit, enfin pour rien, par un alpiniste. C'était le Mont Aiguille au Vercors. Alors on a beaucoup dit que ce premier acte d'alpinisme était une forme de rentrée dans la modernité. Et bien ce qu'a fait Alex Honnold, ça pourrait sonner les débuts de la postmodernité.
Ça vous manque. Vous avez tout repris depuis votre accident, Sylvain Tesson. Vous marchez, vous faites de la moto, toujours. Mais l'escalade, c'est évidemment beaucoup plus compliqué.
Non, j'ai repris mes
vous
activités.
Vous prenez l'escalade ?
Oui, mais de manière évidemment très raisonnable. Okay. C'est-à-dire que maintenant, je grimpe avec des cordes, des guides de montagne. D'accord. Et je fais les choses de manière tout à fait.
Mais du coup, quand vous le voyez, Alex Honnold, vous vous dites, oh, ça me fait un peu envie quand même ou...
Ah oui, non, mais attendez, c'est comme. Là, Alex Honnold, c'est. Oui. Moi, quand je regarde Alex Honnold,
c'est comme
un fidèle dans la cathédrale qui regarde Dieu.
Allez, ça s'appelle En avant, calme fou, en tout cas une esthétique de la bécane avec Thomas Gouasque pour les photos. C'est publié chez Albin Michel, formidable beau livre à offrir, il est encore temps, écrit à quatre mains et surtout à deux roues. Merci beaucoup Sylvain Tesson.
Merci. When I'm all alone on my own by my lonesome and there ain't a single nother soul around, I wanna dig into my guitar, bend a blues riff that hangs over everything.
When I'm by myself and it's daytime, cause down under, oh, wherever it is I live when it's evening. You know I speed read the morning news and come up with my own little song, oh, so too. Outside to a beautiful morning where the trees are all wagging, my head flag waving, the scenery raging, my love flock cascading, and the smog hangs over everything.
When I'm outside in a real good mood, you could almost forget about all the other things, like a big old ominous cloud in my periphery.
Courtney Barnett et Kurt Weill, Over Everything sur France Inter. Et puisqu'on est allé un peu aventurier ce soir, jour de Noël, je vous emmène sur un terrain de jeu, un vrai terrain de jeu. On n'est pas très loin de Kaboul, en Afghanistan. Et écoutez ça. Vous les entendez, les chevaux, les fouets, les cavaliers, les cavalcades. Bienvenue donc en Afghanistan, bienvenue au cœur de la saison du Bouskashi. Cher à Joseph Kessel, le Bouskashi, c'est un sport équestre pratiqué depuis des siècles. Et voici comment ça marche. Des chopendos, des cavaliers, se disputent la carcasse d'un veau qu'il s'agit de placer dans un cercle tracé à la craie au sol. Cette partie peut durer des heures. Le Bouskashi, comme si vous y étiez, grâce à Sonia Ghezali, en selle.
Les cravaches claquent sur les croupes, les cavaliers tirent avec force sur les rênes. Les chevaux se cabrent au-dessus du cercle tracé à la chaux sur le sol, là où vit la carcasse d'un veau décapité. Najiboula plonge, se retenant d'une main la selle, saisit la dépouille de l'autre, s'extrait de la mêlée, galope à travers le terrain, contourne un drapeau vert planté à l'autre bout et revient à toute allure lancer l'animal mort dans le cercle de justice. Najiboula marque de nouveaux points. Il réussit l'exploit pour la troisième fois depuis le début de la partie. Le Chopendos, cavalier de Bouskashi, est une star dans tout le pays.
Je suis Chopendos depuis 10 ans. Mon père, mes frères pratiquent le Bouskashi. C'est une histoire de famille. Je perpétue la tradition familiale.
Perché sur un bel alezan cuivré, il porte un chapan rose, un manteau épais ouvert sur le torse, de grandes bottes en cuir montant jusqu'aux genoux dans lesquels il a glissé des morceaux de bois pour protéger ses tibias. Le trentenaire a une carrure massive. Il se prépare tout au long de l'année.
Il faut faire beaucoup d'exercices. Courir, faire de la musculation, nager. Et puis il faut aussi manger sainement et avoir un très bon cheval. Ce sont les secrets pour gagner au Bouskashi.
Des annonceurs lancent les paris dans les haut-parleurs. Sur les murets qui longent le terrain, les spectateurs, des hommes uniquement, suivent la soixantaine de chopendos se débattant pour s'arracher la carcasse de l'animal qui pèse près de 50 kilos. Amir vient depuis qu'il est enfant.
Le Bouskashi existe depuis plus de 300 ans. Mon grand-père, mon père venait, je viens tous les week-ends et mes fils viendront aussi. C'est un sport qui demande beaucoup de puissance, il faut être fort pour attraper la carcasse de l'animal.
Sur le terrain, un vieil homme, dans un chapan, sur sa monture, reste à l'écart de la mêlée tout en suivant de quelques mètres les chopendos. Habiboula est une icône du Bouskashi à Kaboul. Ancien cavalier, il encadre désormais les équipes.
J'ai 82 ans. Ça fait 60 ans que je monte à cheval. Et j'ai monté plus de 40 chevaux au cours de ma vie. Alors, peu importe qu'il soit blanc, brun, noir, le cheval doit être avant tout courageux. Et peut-être rapide, grand, petit, mais il doit avant tout avoir beaucoup de courage.
Pour voir la préparation des chevaux qui dure toute l'année, il faut se rendre dans le nord de l'Afghanistan, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Ouzbékistan, dans la ville de Mazar-e-Sharif. Le soleil ne s'est pas encore levé, la mosquée bleue n'est encore qu'une grande ombre dans la ville silencieuse où résonnent seulement les sabots des chevaux sur le bitume. Chaque matin, dès 5 heures, ils sont sur la route pour rejoindre des terrains caillouteux. Leur saïs sur le dos, des palefreniers qui prennent soin d'eux tout au long de l'année. Après une heure de promenade, au pas, ils rentrent. Dans l'arrière-cour d'une maison traditionnelle, au milieu des oies, des dindes, d'une dizaine de chaumes et la veille, quatre chevaux sont bichonnés par le palefrenier Amir Shah. Il plonge une petite pelle dans un sac d'orge, remplit un récipient qu'il porte au destrier.
Les chevaux ne sont nourris qu'avec 5 aliments, de l'eau, de l'orge, de l'avoine, des œufs et du beurre. Rien d'autre.
Le quinquagénaire souriant, turban noir et blanc sur la tête, les brosse, puis les recouvre d'une épaisse couverture qu'ils sanglent sur leur dos, leur retire le harnais en fer pour leur en passer un plus souple. Il n'y a que des étalons, aucun n'est castré, tous sont réservés pour le Bouskashi. Et sont de grande valeur, explique le propriétaire des quatre chevaux qui est aussi le président de la fédération de Bouskashi du nord de l'Afghanistan.
Leur prix n'est pas en dessous de 15 000 dollars. Celui-ci vaut 45 000 dollars. Celui-là, 25 000. Et l'autre là-bas, 35 000 dollars. Les chevaux du maréchal Fahim coûtaient 100 000 dollars. Ceux du général Dossoum valent 50, 60 000 dollars chacun.
Le maréchal Fahim, ancien chef de guerre, possédait de nombreux chevaux de Bouskachi. C'est le cas aussi de l'actuel vice-président, le général Dostoum. Les hommes puissants du pays sont souvent de grands propriétaires de chevaux de Bouskachi qui rémunèrent jusqu'à 15 000 dollars par saison les Chopendos qui concourent pour leur écurie.
Sonia Ghezali à Kaboul, le Bouskachi, ses règles, ses traditions. Merci beaucoup. Allez, la petite bande d'Un jour dans le monde passe Noël avec vous et surtout quelques suggestions culture dans les besaces.
France Inter, Un jour dans le monde.
Et ce soir, puisque c'est Noël, pendant que vous déballez peut-être encore des cadeaux dans Un jour dans le monde, on va vous faire regretter ceux que vous avez offerts ou ceux que vous avez reçus en vous suggérant encore ce soir des livres, du cinéma, des séries télé aussi, que vous pouvez d'ailleurs encore voir, encore acheter. Autour de moi, Eva Bétan pour le cinéma, Ilana Mor-Youssef pour les livres et Dorothée Barba pour les séries télé. Bonsoir à toutes les trois.
Hein. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir.
Il y en a une et demie qui suit, c'est agréable.
On est là.
On va commencer par vous, tiens, Eva Bétan.
Parce que j'avais un petit bonsoir, c'est ça?
Alors, en tout cas, si je vois la liste de films que vous m'avez laissé, il va falloir faire un choix. On commence par quoi?
Eh bien écoutez, c'est pas du tout un palmarès, mais quand j'ai lu la liste des livres, films sortis cette année, je me dis ouais, là il y avait quelque chose, là ça dit quelque chose, là il y avait une manière de faire. On va commencer par les États-Unis qui sont un grand territoire de cinéma et avec un grand classique au-dessus du cinéma qui est de partir d'un événement passé pour avoir des répercussions aujourd'hui.
Et c'est Détroit donc, Les émeutes raciales dans la ville de Détroit, un film signé Catherine Bigelow.
Ce sont des événements qui remontent à un demi-siècle et le film sort en même temps que les problèmes raciaux de Charlottesville. Et là, vous avez toute la maîtrise hollywoodienne de Catherine Bigelow et elle nous amène avec, en ménageant de la surprise, à un moment, vous dites zut, c'est là où elle voulait nous amener, au cœur de qu'est-ce que c'est qu'un processus racial, de violence raciale, comment on déshumanise quelqu'un pour pouvoir lui faire subir ce qu'on lui fait subir.
Sauf qu'apparemment, l'Amérique n'a pas voulu le voir.
Non,
parce que
c'est un échec
total,
relatif, ouais. Relatif, oui, ce qui est quand même assez extraordinaire, surtout que c'est une femme qui a eu un Oscar. Enfin, c'est pas rien, Catherine Bigelow. Je voudrais citer rapidement un autre film aussi qui prend le passé pour parler du présent. The Lost City of Z, explorateur début du XXe siècle. Et qu'est-ce que nous dit en substance ce film? C'est que notre civilisation n'est pas supérieure à d'autres civilisations. Jane Grey l'avait écrit 8 ans auparavant. Il sort en même temps que Trump.
Le dernier bout d'Amérique, c'est sorti il y a quelques jours. Là, oui. Pour le coup, ça va être facile de retourner le voir ou d'aller le voir.
The Florida Project.
Exactement.
Et c'est l'Amérique d'aujourd'hui. C'est sûr, là aussi, il faut séduire. Bien, c'est un film que vous allez voir, il est par moments rock, par moments c'est une comédie et c'est un film social absolu. Ça parle de gens qui sont en quelque sorte des invisibles de la société. C'est pas les homeless, comme on dit, les sans domicile. Ce n'est pas les gens qui vivent tranquillement chez eux. C'est les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un domicile permanent, où ils dorment dans leur voiture ou là, comme c'est le cas ici, dans un modèle bon marché.
Eva, quittons l'Amérique pour les films 2017.
Господи.
Алёша Слепцов, 12 лет. Рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров. Здоров, без особых примет.
Et là, Eva, on est dans Faute d'amour d'Alexandre Zviagintsev. Et vous,
Russie.
Je me souviens très très bien du moment où vous l'avez chroniqué dans Un jour dans le monde. Gros gros coup de cœur pour vous cette année.
C'est un immense cinéaste et c'est un très grand film. On peut en parler avec des grands mots, le matérialisme en Russie aujourd'hui, l'égoïsme, la perte des valeurs, etc. C'est un couple qui se sépare et leur enfant de 12 ans, les jeunes, personne n'en veut. Et en même temps, ça ne suffit pas parce qu'il y a la puissance cinématographique, c'est comme la puissance des grands romans. Vous pourrez le ressortir dans 20 ans. Il parle toujours.
Vous avez 5 secondes pour un dernier,
oui,
peut-être, Eva, un dernier,
oui,
coup de cœur.
Vite, c'est un film palestinien, Je danserai si je veux. Ce film incarne deux choses. Un, de partout, des gens prennent la caméra en deux talents. Et deux, on nous dit comment vivent les autres, comment on vit ailleurs. Et c'est parler de jeunes palestiniennes vivant en Israël, ce qu'on appelle les Arabes palestiniennes. Pas sur le côté, je dirais, politique, puisqu'on ne parle de cette région qu'en termes politiques, c'est du côté société. Comment on fait quand on est émancipé et que votre famille est conservatrice?
Et tous ces films, Eva Bétan,
il y en a d'autres. Hein.
Ah bah oui, j'imagine bien qu'il y en a d'autres. Oui. Et puis il y en aura d'autres aussi en 2018. Et vous aurez l'occasion de revenir nous en parler, bien sûr. Tous ces films, ils sont sur la page Un jour dans le monde de franceinter.fr. Ilana Mor-Youssef, c'est à vous. Vous, votre livre de l'année, votre grand coup de cœur de l'année. Là, c'est plus facile à les trouver peut-être que certains films d'Eva. Ça s'appelle Le corps des ruines.
Oui, de Juan Gabriel Vázquez, un auteur colombien qui est un des plus grands auteurs actuels de ce continent. Il sera peut-être un jour prix Nobel de littérature. Alors Juan Gabriel Vázquez travaille beaucoup sur la violence dans son pays. Et ce livre, ce roman, Le corps des ruines, c'est un travail sur l'origine de la violence, le pourquoi de la violence. Et ça commence de la façon suivante. Le narrateur, qui est un double de l'auteur, est devant sa télévision. Il voit une scène d'arrestation, un type qui a essayé de voler, en tout cas de toucher, un costume dans une sorte de musée. Mmh. Ça commence comme ça, ça commence en fait par une référence à ce que nous ignorons de ce côté du monde, qui est un assassinat politique qui a coupé l'histoire colombienne en deux. L'assassinat en 1948 d'un avocat qui devait être candidat de la gauche à l'élection présidentielle, qui s'appelait Jorge Eliezer Gaitán. Voilà. Alors, notre narrateur, en fait, il se retrouve pris là-dedans un peu contre son gré, parce que qui est c'est un intellectuel, un écrivain qui vit à Barcelone justement pour mettre à distance toute la violence de son pays. À l'occasion d'un passage en Colombie, il se retrouve coincé là-bas. Son épouse est sur le point d'accoucher. C'est un accouchement difficile. Donc en fait, elle va accoucher sur place et tous les deux se retrouvent en Colombie pour plusieurs mois. Et il raconte donc Juan Gabriel Vázquez, que j'ai rencontré à Paris quand il est venu faire la promotion de son livre, dans quelles circonstances il s'est mis à écrire ce livre.
Mes filles jumelles venaient d'être nées en Colombie. Un de ces jours, je sortais de l'hôpital et je rencontrais un médecin qui avait lu mes livres et qui connaissait donc mon intérêt pour les deux crimes les plus célèbres de l'histoire colombienne du XXe siècle, qui ont vraiment marqué l'histoire colombienne. L'assassinat en 1914 de Rafael Uribe Uribe et l'assassinat en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán. Et voilà qu'il m'invite chez lui et il me sort d'un côté une partie du crâne de Rafael Uribe Uribe et de l'autre, une vertèbre de Jorge Eliezer Gaitán. Et il me met ses restes, ses ruines humaines dans les mains. Et je crois que le roman est né à ce moment-là, avec cette coïncidence qui m'a mis une question dans la tête. Comment hérite-t-on de la violence? Et cette question de l'héritage de la violence m'a suggéré l'histoire qui est au cœur du roman.
Voilà, vous noterez au passage quand même ce français admirable.
Ah oui.
Il a vécu à Paris, il a fait ses études à Paris. Et donc ce roman, Le corps des ruines, c'est aussi une réflexion sur la façon dont on écrit l'histoire, dont un pays écrit l'histoire, puisque tous, nous dit Vázquez, nous avons besoin d'un récit commun pour nous y reconnaître.
Merci beaucoup, Ilana Mor-Youssef. On rappelle que votre coup de cœur s'appelle Le corps des ruines, signé Juan Gabriel Vázquez.
Dans une traduction d'Isabelle Guignon.
C'est bien de le dire et toujours de le rappeler. Dorothée Barba, vous allez nous faire redescendre à un tout autre étage, mais moi aussi je l'assume parfaitement. Les gens qui sont fans de séries télé, puis surtout qui étaient nés dans les années 90, se souviennent de ça.
Tu ne fais rien d'autre que boire de la bière, mon vieux. Je vais réparer l'évier toute seule.
Hey, fais gaffe, hein, tu m'occupes de l'évier, Rosa.
J'ai presque envie de dire quelle horreur, oulala, quand
ouais,
même.
Je comprends. Mais c'est vrai que rire en boîte, ça alors, fait très années 90.
On va y revenir, ouais, mais c'est vrai que c'est l'année des retours. Curieusement, l'année à venir, l'année 2018. Et alors ça, il est gratiné, pardon.
C'est vrai que la mode est plus que jamais au vintage, Fabienne, cette année. On a eu Stranger Things hein, sur Netflix avec les années 80 en force. Et donc c'est Roseanne, vous l'avez reconnue,
oui.
Roseanne qui revient. C'est une série culte des années 90, donc cette fois, sitcom qui a duré presque 10 ans, hein, 200 épisodes, et qui sera de retour aux États-Unis en 2018, avec le même canapé, qui était quasiment un personnage de la série, et surtout avec les mêmes acteurs, Roseanne Barr et John Goodman, dans le rôle de Dan, le père de famille. Il fallait, du coup, j'étais obligée, hein, j'ai revu quelques épisodes
oui,
pour vous en parler.
Vous êtes tellement courageuse.
C'est vrai que la série a pris un petit coup de vieux, les épisodes ont un rythme un peu flottant, le scénario n'est pas toujours très solide, mais ça repose sur deux personnages qui sont vraiment très charismatiques, Roseanne et Dan. Et surtout, c'est une série qui racontait le quotidien d'une famille modeste, un couple d'ouvriers avec trois enfants. Ça touchait du doigt des sujets tabous à l'époque à la télé. L'obésité, notamment, hein, parce que Dan et Roseanne, ils sont
tous
pas les dans les standards de beauté habituels et pourtant ils crèvent l'écran. Et puis souvenez-vous qu'il y avait beaucoup d'amour, Fabienne, dans cette série. Dans la famille Connor, on se dit beaucoup qu'on s'aime. Mais ce n'est pas du tout dégoulinant de bons sentiments parce qu'on s'engueule aussi beaucoup et on est volontiers vulgaire. Alors c'était audacieux à l'époque et novateur. Donc c'est une bonne raison d'attendre avec impatience le retour. D'autant que depuis, John Goodman il est devenu culte. Hein.
Il est devenu quelqu'un, il est devenu un acteur. Si
il, a,
dire, hein.
il a joué
Elle
dans,
moins, mais lui, oui.
Il a joué dans The Big Lebowski juste après la série en 98. Voilà, malheureusement, en France, a priori pas encore de diffusion prévue, mais ça arrive aux États-Unis en mars prochain.
Est-ce qu'on peut réécouter juste un tout petit bout, le kitsch total des années 90. Voilà.
Vous le gardez comme mais ça, la prochaine garde. Blague à l'antenne, c'est, pas fond de balance.
C'est maçonnerie de portable désormais. Alors, autre retour, ils ont intérêt à mieux se débrouiller qu'il y a deux ans, je crois. Mulder et Scully dans X-Files.
Ouais, ils n'en finissent pas de revenir, hein, les deux agents du FBI. D'ailleurs, le New York Times a révélé récemment l'existence d'un programme secret du ministère de la Défense américaine, hein, qui a enquêté entre 2007 et 2012, en tout cas, sur les ovnis. Voilà, ce serait une raison de suivre la saison 11 de X-Files, prévue en 2018. Moi, franchement, je trouve ça un peu agaçant, cette manière de tout recycler, hein, de faire du neuf avec du vieux. Alors j'attends, en revanche, avec beaucoup de curiosité, une série franco-américaine, cette fois. C'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Vous vous souvenez de ce roman qui avait fait un carton en librairie? Alors, personnellement, je trouvais que c'était assez mal écrit, mais il y avait un suspense.
Je me souviens d'un critique littéraire qui avait lancé comme ça à la radio, d'ailleurs. Mais c'est traduit de quelle langue?
C'est terriblement cruel.
Il est suisse, l'auteur.
Eh oui,
mais c'est bon. C'est écrit en français.
Alors, donc en série cette année.
Voilà, en série cette année, c'est une série de Jean-Jacques Hano avec Patrick Dempsey dans le rôle titre, qui s'est évadé du bloc opératoire de Grey's Anatomy, exactement. Voilà, ça peut être extrêmement addictif aussi en série. Diffusion prévue sur TF1 l'année prochaine.
Alors,
et ce sera d'ailleurs l'ouverture du Festival de Cannes des séries, hein, première édition au printemps prochain.
Alors, il y a autre chose, Dorothée, qu'on va suivre avec beaucoup d'impatience, mais qui a été aussi le feuilleton de cette année 2017. Et vous comprendrez tout de suite.
Voilà, c'est la chute.
Le coup de la bague.
Exactement. Le séisme 2017 dans le monde des séries, c'est bien sûr la chute de Frank Underwood, House of Cards. Kevin Spacey accusé d'agression sexuelle, écarté donc de la série phare de Netflix. Alors la production de la sixième et dernière saison va reprendre début 2018. Sans lui, mais avec Claire Underwood comme personnage principal. Alors on est tous complètement... médusé, comment vont faire les scénaristes? Est-ce qu'ils vont...
Moi, je parie que c'est elle qui l'écrase avec sa voiture, c'est mais ça. Comment si vous voulez, on parie.
Va-t-il mourir ou pas? D'ailleurs, va-t-il s'exiler à l'étranger? On n'en sait rien du tout.
Allez, quelques mots sur rapidement, Dorothée, sur les séries qui ont marqué quand même et qu'on a donc envie de revoir.
Alors, j'en citerai trois. Une américaine, une anglaise, une danoise.
Allez-y.
Celle qui arrive loin devant toutes les autres séries, à mon avis, c'est une américaine. Hein, The Handmaid's Tale, série diffusée en France sur OCS. Avec mon accent anglais particulier, peut-être qu'on n'a pas compris. Alors, on va dire La Servante Écarlate, adaptation du roman de Margaret Atwood. C'est vraiment, vraiment une grosse claque. On y pense longtemps après. Une dystopie, ça se passe dans le futur, dans un futur où tout le monde est devenu stérile et les quelques femmes encore fertiles sont devenues des esclaves sexuelles au service de l'élite, des procréatrices, des utérus sur pattes. C'est vraiment glaçant, mais je voudrais pas laisser croire que c'est désespérant pour autant, parce qu'il y a une porte de sortie dans La Servante Écarlate. Comme dans toutes les dystopies, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui choisit de se battre contre la catastrophe.
Et cette phrase, Dorothée, si vous ne vouliez pas faire de nous une armée, il ne fallait pas nous donner d'uniforme.
Exactement. D'ailleurs, au passage, les codes couleurs de The Handmaid's Tale sont complètement dingues. Les procréatrices sont en rouge, les costumes sont absolument sublimes. Voilà, de quoi se convaincre quand même que le pire n'est jamais certain.
Anglais-danois, très très vite.
Très vite. The Crown, série Netflix qui raconte la vie de la reine d'Angleterre. Jamais j'aurais cru me passionner autant pour la vie privée de la reine d'Angleterre.
Mais surtout que le prince Philippe puisse nous intéresser, c'est quand même extraordinaire.
C'est quand même une belle prouesse. Et puis une série danoise, parce que quand même, il n'y a pas que les anglo-saxons dans les séries.
Ça fait, les Danois, ils nous l'ont déjà montré.
Ça s'appelle Bankerot, et c'est l'histoire complètement foutraque de deux paumés qui essayent de monter un resto et qui se retrouvent empêtrés dans un trafic de drogue. Voilà, c'est trafic de drogue et gastronomie avec des super comédiens. C'est passé cette année sur Arte. La preuve qu'après Borgen, effectivement, il y a quelque chose de génial au royaume du Danemark.
Et donc, merci à Shakespeare également. Bonjour à lui. Merci à toutes les trois. On a tout bien noté, bien sûr. On met ça sur la page Un jour dans le monde sur franceinter.fr. Le 18-20 continue en ce jour de Noël et ce soir pour le téléphone sonne. Chloé, Morgane, Théo, Hugo, lâchez vos cadeaux juste un instant, c'est le moment. Le téléphone sonne est réservé aux 6-15 ans, c'est le moment de parler planète, pollution, tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le réchauffement climatique avec le climatologue Jean Jouzel. C'est le moment de parler migrants, leurs enfants, ce qu'ils deviennent, est-ce que ça marche pour eux l'école, avec le directeur général de Médecins du Monde qui est là aussi. Vous avez peut-être entendu parler de harcèlement forcément dans la cour de récré avec la maîtresse, avec les profs. Allez-y aussi, une pédopsie est là pour répondre à vos questions. Et puis François Dufour est là aussi, de Mon Petit Quotidien, que beaucoup d'entre vous, jeunes auditeurs, lisez sûrement.